vous êtes ici, c'est que la rumeur est parvenue jusqu'à vous. On entend des voix sur le 99.8 FM. Eh bien bravo, vous êtes en train d'intercepter un signal radiophonique. C'est celui de Radio Balise. Que vous soyez au pays de Quimperlé, au pays d'Auray ou au pays de Lorient, installez-vous. Nous sommes en direct de ce très beau vendredi 20 octobre. Vous êtes sur le 99.8 et c'est donc l'heure de Balise Midi, le magazine des initiatives locales, des gens qui bougent ici et là dans le coin. Homme de marine, femme de car, ou simple poète qui une fois a regardé la mer dans le bleu des yeux, cette émission est pour vous. Menu de ce jour, nous partons en mer, rien que ça. Alors la mer qui nourrit l'homme, depuis des millénaires évidemment, mais la mer aussi qui nourrit notre imagination du royaume antique de Poséidon, peuplé de monstres aux toutes premières cartes extravagantes du Moyen-Âge, des premières traversées de l'Atlantique jusqu'au début de l'exploration sous-marine. La mer se révèle toujours plus impressionnante, plus effrayante, plus fascinante. Symbole d'infini et d'au-delà, elle est ce vaste terrain d'exploration et d'aventure qui est loin d'avoir livré tous ses secrets. L'aventure, la mer, c'est l'aventure, c'est le sujet de ce Balise Midi, puisque nous accueillons sur notre plateau Sonia Lassaigne et Pierre-François Bonneau de l'association Les Aventuriers de la Mer, manifestation qui s'est ouverte hier au scolaire, et qui continue jusqu'au dimanche 22 octobre à la Cité de la Voile Éric Tabarly, à Lorient. Pierre-François Bonneau, bonjour. Merci de venir nous rejoindre. Alors, Sonia Lassaigne n'est pas encore arrivée sur notre plateau. Vous êtes modérateur pour Les Aventuriers de la Mer.
Tout à fait, oui.
Puisqu'il y a énormément de rencontres en fait, qui sont programmées pendant ces trois jours avec des acteurs de la mer, plutôt des aventuriers finalement.
Oui, des aventuriers. Quand on parle d'aventurier, il faut en parler au sens large. C'est-à-dire que ce sont un scientifique peut être un aventurier, un explorateur l'est bien évidemment, un coureur au large peut l'être. Un plongeur est un aventurier de la mer. En fait, on essaye de rassembler tous ces gens qui sont passionnés par le monde maritime, par les océans, et puis d'essayer de se projeter tout le temps dans l'avenir. Ça, c'est aussi, un des traits fondamentaux de notre manifestation. On essaye de ne pas être trop passéiste, mais au contraire d'être déjà projeté vers ce que seront les océans et ce que sera la vie dans les océans demain.
Et puis on le verra, il y a aussi des écrivains, des poètes, des artistes qui sont en lien avec la mer et qui sont, dans leur mesure, aussi des aventuriers de la mer.
Voilà, on a quelques personnes emblématiques qui viendront, comme Titouan Lamazou, qui est à la fois le vainqueur du premier Vendée de l'Aube et qui en même temps aujourd'hui continue une carrière de peintre, d'excellent peintre, et qui a un grand projet maritime puisqu'il va faire construire un maxi catamaran qui va servir d'atelier d'artiste et sur lequel il partira bourlinguer sur toutes les mers du monde.
Donc on est ensemble là pour une petite heure, on va essayer de découvrir un peu la programmation des Aventuriers de la Mer. Et puis comme vous le disiez, ce sont des gens qui sont en proie aux préoccupations écologiques, aux innovations scientifiques, à l'exploit aussi, sportif souvent. Donc c'est parti, on va essayer de voir un peu comment ces trois jours vont se faire. Mais avant ça, elle a lieu à Lorient. Lorient, la Cité de la Voile, c'est pas anodin en fait de faire ça ici.
Ah non, pas du tout. Lorient est aujourd'hui, on va dire, une des places fortes du monde maritime, avec une dynamique qui est une dynamique impressionnante autour de Lorient à la base, du port de pêche de Kéroman qui n'est pas loin. Et ça nous paraissait, je dirais d'une certaine manière, relativement évident de faire que cette manifestation ait lieu à Lorient, dans la mesure où, la ville est très très impliquée aujourd'hui dans le développement du maritime.
Et pourtant, c'est seulement la deuxième édition.
Oui, c'est seulement la deuxième édition, parce qu'en fait, on a eu l'idée qu'il y a trois ans.
Alors, ça paraît un petit peu récent. Enfin, c'est seulement la deuxième. Alors, la programmation, comment elle s'est construite ?
Alors, en fait, il y a plusieurs étapes. Dans un premier temps, on réunit un comité de pilotage, donc qui est constitué de gens, on va dire, qui sont connecté. Des experts du monde maritime. Donc ça va de Jean-Michel Le Boulanger, qui est vice-président de la région Bretagne, chargé de la culture, et qui en même temps quelqu'un qui a toujours été passionné par le milieu maritime, au rédacteur en chef du Chasse-Marée, en passant par des scientifiques. Voilà, tout ce petit monde se réunit, discute de la programmation, et petit à petit on élabore des thématiques. Et une fois que les thématiques sont élaborées, on cherche qui pourraient être les intervenants les plus adaptés à ces thématiques.
Et c'est, alors ça, elle s'est construite là en concertation. Dans le code génétique des aventuriers de la mer, il y a cette idée, comme vous le disiez en début d'émission, de mettre à la croisée des chemins un petit peu tous les gens qui sont sur cet espace-là, qui est le maritime.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on cherche vraiment à être très, très ouvert et à faire se rencontrer des gens qui, peut-être, dans d'autres circonstances, se seraient pas forcément rencontrés. J'ai le souvenir, en fait, l'an dernier, on a eu une très, très, très jolie, une très jolie rencontre où on avait à la fois les surfeurs de Lost in the Swell. On avait Anne Kéméré, qui revient cette année, qui était elle, sur ses projets de traversée du passage du Nord-Ouest. On avait Capucine Trochet qui était partie sur un petit bateau qui s'appelle Taratari, qui est un ancien bateau de pêche du Bangladesh construit en toile de jute. Et puis on a eu comme invité surprise Jean Galfione, donc l'ancien perchiste qui s'est reconverti dans le monde de la voile. Et en fait, c'est Jean qui nous a contactés en disant « J'aimerais vraiment bien participer au débat ». Donc on n'allait pas refuser. Et on a eu un débat d'une très très grande richesse et on était en plus ravis parce que hélas pour eux, on a été obligé de refuser du monde tellement le public était présent.
Donc un succès fou dès la deuxième édition. Ces points de rencontre, de dialogue entre gens de mer, ils sont assez rares finalement, puisque c'est un espace qui a plusieurs usages. C'est vraiment cette volonté-là d'arriver à créer des ponts entre les différentes, même pas corps de métier, mais corps de passion.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est... Et je pense que c'est d'ailleurs... En fait, cette volonté-là qui fait le succès de la manifestation. On a été surpris de voir à quel point les gens acceptaient facilement de venir à ces rencontres. Et même... de voir des gens qui nous contactaient directement en disant nous on aimerait bien participer aux aventuriers de la mer, participer à ces rencontres-là. Donc en fait on n'a pas eu de grosses difficultés de programmation. Après il y a toujours des gens qui ont des emplois du temps plus ou moins chargés. On espérait avoir François Gabart qui vienne, et comme il est juste en stand-by pour ses tentatives de record autour du monde, il nous a dit que là, cette année, c'était pas possible, mais que sûrement, il reviendrait une autre année.
Alors, on fera un tour d'horizon un peu de la programmation de ces trois jours. Je le rappelle, c'est de vendredi, donc aujourd'hui, jusqu'à dimanche, dimanche après-midi. Ça se passe à la Cité de la Voile, donc c'est gratuit.
C'est entièrement gratuit. Donc, il y a les rencontres qui existent, mais il y a aussi d'autres choses à côté. Il y a des animations donc, qui sont tout autour de la Cité de la Voile, avec notamment des visites de bateaux. On a l'une d'eux qui est un des bateaux, donc un des bateaux qui fait du transport maritime à la voile. On devait avoir la Belle Poule, manque de chance, des conditions météo n'ont pas permis que la Belle Poule puisse venir. Mais en fait, voilà, il y a plein de choses qui se passent tout autour de la Cité de la Voile.
Donc la Cité de la Voile, c'est un peu le centre névralgique de cette manifestation. Ouais. Ça se passe, donc les rencontres sont dans l'auditorium de la Cité de la Voile. Et il y a des visites de bateaux, il y a tout un univers périphérique qui permet.
Oui, en fait, puis on ne se limite pas qu'aux rencontres. On a commencé l'an dernier, on compte bien récidiver les années suivantes. On fait par exemple le samedi soir... On fait un spectacle autour du maritime. L'an dernier, on avait fait un spectacle autour de la petite boîte bleue des pâtés ENAF, parce que le pâté ENAF, c'est un symbole essentiel pour les marins. Et cette année, on aura un spectacle autour du thème de Moby Dick.
D'accord. Alors, on en profite pour saluer Poul Drozik. Je ne sais pas si on capte jusqu'à Poul Drozik, mais en tout cas, vers le Finistère. Sonia Lassaigne vient de nous rejoindre sur le plateau. Alors, vous êtes un peu essoufflée.
Bonjour. Non, ça va.
Ça va.
C'est bon.
C'est bon. Sonia Lassaigne, vous êtes coordinatrice des Aventuriers de la Mer.
Oui, tout à fait, voilà.
Donc depuis la deuxième édition.
Deuxième édition, voilà, on travaille avec Pierre-François qui est vraiment le modérateur des rencontres et qui permet justement que ces rencontres-là soient accessibles et que la mayonnaise prenne entre les intervenants. Puisque le but de ces rencontres, effectivement, c'est de prendre des gens de milieux différents, d'horizons différents, pour qu'ils puissent échanger, partager.
Et avec le public aussi.
Et avec le public, justement. Et c'est peut-être là où les aventuriers de la mer font la différence avec d'autres événements maritimes, c'est qu'on est vraiment dans cette proximité avec le public, avec cette rencontre avec le public. On est sur une petite jauge, hein, puisqu'on a un auditorium de 120 places. Et du coup, effectivement, c'est facile de rencontrer les intervenants. Pendant, après, il y a des moments de dédicace. Il y a un PPVR, parce qu'on a une amitié assez fidèle et profonde au pâté et naf.
PPVR pour
pain, pâté, vin rouge. Ah, PPVRC, pain, pâté, vin rouge, cidre.
Ah, je croyais que c'était pour cornichon.
Il y en aura aussi, ça c'est notre secret de fabrique.
Alors, je lis un petit peu dans votre édito, vous dites « À l'heure des connexions planétaires, des frontières qui tendent à s'abolir, de la raréfaction des espaces vierges, existe-t-il encore de véritables aventures ?» C'est quoi la réponse ?
Ben, il faut venir pour savoir, en fait.
Ah, non, la réponse, c'est non, tout le monde en fait.
La réponse, c'est bien évidemment oui. Simplement, il faut un peu plus creuser que, on va dire, du temps de Magellan ou de Christophe Colomb. Elle est peut-être moins évidente à première vue, mais elle existe de toute manière.
Alors justement, sur la première conférence qui aura lieu, enfin la première conférence, la première rencontre s'appelle « Explorer, innover ». Enchanter le monde. C'est ce soir à 18h, donc dans l'auditorium de la Cité de la Voile, et avec, s'il vous plaît, Roland Jourdain, donc double vainqueur de la Route du Rhum, si mes souvenirs sont bons.
Oui, tout à fait.
Et puis Jean Olivreau, qui est géographe à Rennes 2. Cette ouverture, c'est un peu pour donner le pouls de...
Oui, et on aura un troisième invité, qui est Sébastien Roubinet. Sébastien Roubinet, qui va tenter de traverser, en fait, la calotte arctique, en passant par le pôle Nord, sur... une espèce de catamaran Atlas, donc trois personnes qui viennent d'univers très différents, donc un géographe, Jean Olivreau, qui a beaucoup travaillé sur ce qu'il appelle le méritoire.
Le méritoire,
voilà,
exactement.
Donc qui est l'idée que, justement, le milieu marin n'est pas uniforme et que, comme sur Terre, il existe des territoires et qu'il faut reconnaître l'identité de ces différents territoires maritimes. Roland Jourdain, qui est à double titre, il a sa casquette, on va dire, de coureur au large. Et puis aussi, Roland Jourdain, il a fondé la société Kairos, qui est à Concarneau. Et Kairos, qui est très, très impliqué dans le développement durable, dans la construction de bateaux en fibre végétale, dans la recherche d'innovation. Donc, c'est vraiment un acteur de son temps. Et avec Sébastien Roubinet, je pense que ça va être un échange très très riche entre ces trois personnes.
Alors, on le verra, hein, dans cette émission. Un des points communs de tous ces acteurs, ça reste quand même l'écologie, enfin la protection de la mer, qui est cet espace-là en danger quelque part. Je reviens sur cette conférence Enchanter le monde, Sonia Lassaigne. Qu'est-ce qu'il y a derrière Enchanter le monde?
En fait, ce vers quoi tendent les aventuriers sur ces trois verbes qui sont explorer, innover, enchanter le monde, c'est de montrer qu'il y a un potentiel formidable en mer, qu'il y a des projets superbes en mer, et que ces projets-là montrent la positivité des choses. C'est-à-dire que c'est vrai que il y a beaucoup de discours alarmistes qui sont vrais, qui sont fondés, mais il ne suffit pas d'alarmer aussi. Il faut trouver les solutions. Et cette envie, ces projets-là, comme ceux de Sébastien, comme ceux de Roland Jourdain, nous donnent à rêver aussi. Et que pour avancer, on a besoin de rêves. Et que sans rêve, on n'a pas de batterie. Et c'est un peu ça. Explorer, innover et enchanter. Parce que à quoi ça sert si on n'enchante pas le monde ?
Alors, enchanter le monde, justement, on a parlé de Lorient tout à l'heure. Lorient, c'est une ville. Mais Lorient, c'est aussi un point cardinal. C'est l'Est. C'est ainsi que s'est peuplée la rade de Lorient, vers l'Est. On a rencontré Janigue à la cité de la citadelle de Port-Louis pour mieux comprendre les premières heures maritimes du pays de l'Orient. Donc je vous propose un petit reportage dans les couloirs du musée de la Compagnie des Indes. Voilà, à tout à l'heure.
Si on est déçu en arrivant, on reviendra, peu importe. Et puis on va s'installer ici, au milieu du chantier. Et puis on regardera ceux qui rêvent encore partir. Cette citadelle a été détruite aux deux tiers pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a été totalement restaurée. Ce que vous voyez, même si ça a l'aspect de l'ancien, par exemple, les ferronneries sont vernies avec un vernis qui donne l'aspect ancien. Tout est fait pour que vous soyez persuadé d'être dans la citadelle de la fin du Moyen-Âge, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc on va commencer avec le début de l'histoire de la Compagnie des Indes, qui est notamment celle du chantier de la ville de Lorient. Ce bateau est le troisième qui a été construit dans l'enclos du port, c'est-à-dire le chantier de la Compagnie des Indes à Lorient, l'actuel arsenal militaire, en 1671. Le Soleil d'Orient, c'est celui qui va officiellement donner son nom à notre ville. Soleil d'Orient, c'est en hommage à Louis XIV. Alors la proue est intéressante, vous avez tous les symboles du roi de France. Hein. C'est vraiment un bateau hommage à Louis XIV. Un vaisseau de 60 canons, ce qui veut dire que c'est un vaisseau très lourdement armé pour l'époque. Ce navire, Soleil d'Orient, aura malheureusement un destin tragique. En 1671, il quitte l'Orient pour le Siam. Et au retour du Siam, donc l'actuelle Thaïlande, il fait naufrage. Ce navire était extrêmement attendu, et notamment à Paris, par Louis XIV, puisque le roi de Siam, en remerciement de l'aide apportée par Louis XIV pour reconquérir son empire, avait rempli le bateau, mais littéralement, rempli les cales de bateau de trésors, de cadeaux destinés à Louis XIV. On sait que, par exemple, Louis XIV attendait du courrier écrit sur des feuilles d'or. Donc le Soleil d'Orient emporte son trésor et sa légende avec lui au fond des océans, en l'occurrence au large de Madagascar. Ce navire, en 1736, lorsque nous deviendrons une vraie ville, avec une devise, Aboriente refulget, ma splendeur vient de l'Est, eh bien, on déclarera que c'est ce navire qui a donné son nom à la ville. Il faut être très honnête, on a toujours appelé notre port l'Orient, L'Orient. Parce que venant ici, on partait en Orient. Donc c'était le port vers l'Orient et c'est devenu l'Orient tout court. 50 ans après l'installation du chantier, la misère refait surface en France. Il y a des crises alimentaires très très importantes et il y a énormément de gens qui sont jetés sur la route. Et au bout de la route, chez nous, il y a le quai. Et au bout du quai, il y a le bateau et la Compagnie des Indes cherche des équipages. Et donc on va s'embarquer. Mieux vaut crever de faim au soleil en Inde qu'ici à l'Orient. Et puis bon, voilà, même si on est déçu en arrivant, on reviendra, peu importe. Et puis on va s'installer ici, au milieu du chantier. Et puis on regardera ceux qui rêvent encore partir. Puis voilà, il y a aussi tout un imaginaire, un romantisme qui va se créer sur le voyage. Salut,
Hey, Radio Balise.
Voilà, vous êtes toujours sur Radio Balise 99.8 et nous sommes en direct donc avec Sonia Lassaigne et, excusez-moi, j'ai oublié votre prénom, Pierre-François Bonneau, donc de l'association Les Aventuriers de la Mer, donc manifestation qui se tient jusqu'à ce dimanche 22 octobre à la Cité de la Voile, Éric Tabarly, à Lorient. On fait un petit tour de la programmation. Alors d'abord, hors programmation, il y a un jury avec des prix à donner. C'est le c'est Pêchakusha.
Oui, c'est ça, le Pêchakusha.
Conversation en japonais.
Sens de la conversation en japonais. En fait, c'est des règles assez précises. On doit présenter son projet en 3 minutes. Donc, il faut être synthétique. Il faut réussir à faire passer l'idée générale et de le faire passer aussi bien à un jury professionnel qu'au public présent. Et ensuite, 6 minutes 40 de questions par le jury professionnel. Donc en tout, 9 minutes 40 pour expliquer son projet et pour dire, voilà, c'est mon projet qui peut remporter ce prix, prix Fondation de la Mer, parce que la Fondation de la Mer est partenaire de ce Pêchakusha.
Donc des projets connectés à la mer, évidemment.
Alors,
qu'est-ce qu'on trouve comme projet
Alors, on avait mis 3 catégories, qui sont la navigation de demain, la protection de l'environnement et l'aventure maritime. Donc, on a eu pas mal de demandes, plus d'une quazaine de projets, on en a retenu 8. Donc on a de la propulsion par éolienne, on a une exposition océanographique pour sensibiliser aux microplastiques, on a un voilier qui part à la rencontre et qui crée des moments de partage. C'est vraiment très varié sur les supports et les approches.
Alors par exemple là aujourd'hui, il y a des projets de Lorient j'imagine, parce que c'est un terrain d'innovation Lorient.
Complètement, alors l'Observatoire du Plancton a déposé un projet effectivement et a été sélectionné pour justement la sensibilisation aux microplastiques et que fait-on ensuite de ces microplastiques. On a le projet Les Marguerites, qui est un bateau qui est basé à Port-Louis, un magnifique bateau, 1958, un beau... Et ce bateau sert de base justement pour partir à la rencontre et créer des moments de rencontre avec des gens très différents, que ce soit des milieux maritimes, des marins, des artistes, des scientifiques, et de faire une matière qu'ils puissent partager ensuite sur les supports, sur les réseaux sociaux ou sur les médias. Donc voilà, ils vont concourir pour ce type de projet.
Alors on peut aussi, pendant cette manifestation, visiter des bateaux, c'est ça? Il y a 5 bateaux qui sont visitables?
Ouais, alors ça c'est vraiment un point important, parce que je regarde Pierre-François. C'est vrai qu'on donne à voir, on donne à comprendre dans ces échanges, on entend des paroles, mais il nous semblait vraiment important qu'on puisse toucher, qu'on puisse sentir la mer, là, mettre les pieds sur un pont et sentir le temps d'un instant un aventurier. Donc on a invité des bateaux. Alors effectivement, comme disait Pierre-François, la belle poule a renoncé à grand regret à la dernière minute, à notre grand regret aussi, mais ce sera pour 2018. Et on a 5 bateaux représentatifs de tous ces milieux maritimes. Donc on a le Lune 2, qui est une magnifique goélette norvégienne de 1914, qui était à l'origine un bateau de pêche et qui maintenant pratique le transport maritime à la voile, donc du rhum, du café, plein de bonnes choses, qui seront en vente à bord d'ailleurs. On aura également Pendvixis, on est à la Cité de la Voile. On ne peut pas le rater, mais là on peut monter sur le pont, il y a des visites guidées, donc il est accessible et on explique toute cette histoire assez fantastique d'Éric Tabarly. On a également le Biche.
Voilà, le classique.
Le classique, le Biche, qui est...
Groisillon.
Voilà, magnifique restauration de l'île de Groix, bateau de pêche avec ses tangons pour pêcher le thon.
Qui a été restauré d'ailleurs ici à Lorient.
Qui a été restauré à Lorient, oui, par les chantiers du GIP. Une longue, longue et belle histoire, oui. Avec des passionnés à bord et puis des petits clins d'œil aussi, parce que c'est des équipages qui sont jeunes. Par exemple, la moyenne d'âge de l'équipage du Biche, c'est 23 ans.
D'accord.
Donc quand on voit le beau bébé que c'est, on peut être fier de les voir manier un tel bateau, quoi.
Donc comment on fait pour pouvoir visiter ces bateaux? Il suffit de se présenter sur le ponton et on peut y rentrer en accès libre.
Voilà, exactement. Et donc vous êtes accueillis par l'équipage qui vous explique le bateau.
Donc ça c'est jusqu'à dimanche.
C'est jusqu'à dimanche. Et puis un autre petit clin d'œil à Djellali aussi, qui est un très beau bateau. C'est un cotracier qui est construit sur les mêmes plans que le Joshua de Bernard Moitessier. Donc un cotracier turquoise qui est magnifique et qui a la particularité d'avoir à son bord une compagnie qui s'appelle Festina Lente, que vous avez rencontré au FIFIG.
Bah oui, ils étaient au FIFIG à Groix, voilà.
Voilà.
FIFIG, c'est un collectif d'artistes qui navigue sur un bateau et qui est en itinérance.
Voilà.
Donc que vous accueillez.
Voilà. Et nous, on met aussi l'accent sur le bateau parce que c'est un vrai, véritable bijou du patrimoine.
D'accord. Sur Pierre-François Bonneau, sur les rencontres qui auront lieu demain, il y a quelque chose autour de l'innovation. Alors, je course au large, l'innovation est-elle l'ennemi du rêve ou nouvelle aventure? C'est à 11h, toujours dans l'auditorium.
Oui, oui, en fait, c'est un petit clin d'œil. C'est-à-dire que dans le milieu de la course au large, il y a toujours des gens qui disent « Ah, c'était quand même beaucoup mieux avant. Maintenant, avec toutes les techniques modernes qu'ils ont, etc., il n'y a plus de place à l'aventure. On parle du Vendée Globe, c'est devenu une espèce de régate autour de trois caps.
Il y a moins de morts.
Oui, oui, non, mais je pense qu'il y a un côté des goûts du sang hein, qui existent toujours chez le public, il faut pas l'ignorer. Le pari, c'est d'arriver à montrer qu'en fait, l'aventure, elle a pris d'autres formes, mais qu'elle continue d'exister. Alors, on aura des gens qui vont être très différents. En fait, Titouan Lamazou viendra participer à ce débat parce qu'il peut pas rester sur le débat sur les regards d'artistes, donc il sera présent à ce débat-là, mais ça sera intéressant d'avoir son expérience, lui, d'ancien vainqueur du Vendée Globe. On aura Alain Roura, qui était le Benjamin du dernier Vendée Globe, qui est un garçon en fait dont la carrière en fait a commencé il y a relativement peu de temps, puisque sa première grande course au large, c'était la Mini Transat en 2013. Ensuite, il a fait un tout petit peu de classe 40. Il s'est tout de suite lancé dans l'aventure du Vendée Globe. En plus, sur un bateau qui est un bateau mythique, qui est le bateau que Bernard Stamm avait construit dans un hangar à Lesconil, avec l'aide des gens du port de Lesconil, donc qui est un bateau entièrement, on va dire, entièrement fait main, d'une certaine manière. Et puis on aura Karine Fauconnier, Karine qui habite à Locmiquélic, donc elle est là presque en voisine. Et puis Karine qui est une femme qui a été la première femme skipper d'un multicoque, d'un grand multicoque, et qui a cette expérience-là, qui a bourlingué sur des tas de bateaux, qui est une passionnée à la fois de technologie et qui reste totalement une aventurière.
Et on retrouvera aussi Ulysse Buquin. Ça c'est pour le... Justement, à 14h30. Donc ça, c'est à 11h jusqu'à 12h30.
Tout à fait.
Donc pour les plus matinaux d'entre vous, direction la
Cité de la Voile. Je ne suis pas inquiet. Je pense qu'avec un tel plateau, on aura un petit peu de monde qui sera là.
Et à 14h30, sur l'aventure du commerce à la voile au XXIe siècle, on parlait tout à l'heure... du Lune, c'est ça ?
Lune 2,
qui commercialise du café et du rhum. Mm-hmm. Et là, donc, on a Ulysse Buquin qui vient parler de ce bateau norvégien.
Qui sera le capitaine du bateau. Enfin, qui est le capitaine,
qui est
du, bateau.
Capitaine du bateau.
Voilà. On aura Guillaume Legrand qui va être là, qui est l'armateur, en fait, de la compagnie Taute. Dont j'ai oublié ce que ça veut
Transport
dire.
Transport océanique. Transport océanique, oui, Wind Transport. Ah, il y a deux T. Oui.
Bon, on y est à peu près.
Transocéanique Wind Transport.
C'est ça, voilà. Transocéanique Wind Transport.
Donc là, l'état d'esprit, ce sont les nouvelles aventures commerciales qui ont la mer comme.
De toute façon.
Comme transport.
On est confronté, on va être confronté en fait à une réalité qui est que aujourd'hui le commerce maritime, c'est tous les cargos, les pétroliers, etc. Mais les réserves de pétrole, elles sont pas inépuisables. Donc à un moment ou à un autre, il va falloir trouver d'autres moyens de naviguer et de transporter ce matériel. Alors. Le commerce à la voile, je dirais, qui est fait aujourd'hui sur des denrées non périssables, on s'aperçoit que c'est plutôt quelque chose qui est rentable. Et puis, je pense que ces gens-là sont les précurseurs, peut-être demain, de cargo à voile, qu'on va avoir l'occasion d'imaginer à l'occasion d'un autre débat qui sera sur les bateaux du futur.
Et ça, ce sera le dimanche. Alors, avant le dimanche, le samedi 21 octobre, on part plus sur le regard d'artiste. Moteur de l'aventure. Et donc là, Titouan Lamazou était censé intervenir, mais on a aussi les ateliers du bout de la cale.
On a les gens des ateliers du bout de la cale et qui vont nous parler d'un projet qui est un projet fantastique qui s'appelle les racines rêvées de la Tour Eiffel.
Alors les racines rêvées, c'est-à-dire si on...
C'est-à-dire que si on prolongeait chacun des piliers de la tour Eiffel, à un moment, en les laissant s'enfoncer dans le sol et en laissant décrire une courbe harmonieuse, à un moment, ils ressortiraient dans un certain nombre de points des océans. Et c'est ces points-là que les racines rêvées de la tour Eiffel vont aller chercher, notamment aussi avec l'aide de Karine Fauconnier, qui en tant que navigatrice est impliquée dans le projet.
Et oui, Sonia Lassagne, c'est ce que vous nous disiez hors antenne. Karine Fauconnier, elle va aller essayer de visiter ces endroits, c'est ça ?
Oui, alors il n'y a pas que Karine Fauconnier, mais effectivement, il y a de nombreux navigateurs qui vont, dont Karine fait partie, ils vont se mettre, ils sont avec Tara, puisque chacun de ces points sont dans des océans différents, et il y a même un point qui descend très bas, proche des glaces. Donc l'idée, c'est vraiment de se relayer entre marins et artistes sur un même bateau qui relie ces quatre points. Et d'où la présence de Karine, qui est très, très impliquée dans le projet.
Donc on trouvera aussi Claire Marca demain à 16h30, donc sur ses regards d'artiste et de la mer. Claire Marca qui est écrivain.
Alors Claire et Renaud Marca, ils travaillent en couple tous les deux, et ils ont réalisé un certain nombre d'albums. Il y a le premier album qui s'appelait 3 ans de voyage autour du monde, qui est un album en fait, qui est un mélange de dessins et de récits. Je vous déconseille de commencer à le lire parce que vous n'arriverez pas à en décrocher avant la fin. Ils ont aussi fait un livre sur les traces des boutres d'Arabie, depuis Oman jusqu'au lieu de construction de ces boutres. Et puis ils ont aussi voyagé en cargo. Et puis Claire m'a envoyé un petit mail ce matin pour dire, il ne faut pas oublier aussi que nous, on a notre aventure quotidienne, c'est d'habiter au bord de la rivière d'Etel et d'aller faire du kayak dans le golfe du Morbihan.
Voilà, il y a des aventures maritimes en fait, très, très quotidiennes, très côtières, c'est le cas ici. Alors on parle là d'artistes qui ont un rapport à la mer. Moi je vous propose de faire une petite pause musicale avec Flavien Berger, son titre Bleu sous-marin. C'est sur l'album Léviathan. Voilà, à tout à l'heure. c'était Flavien Berger avec le titre Bleu sous-marin sur l'album Léviathan. Nous sommes toujours avec les aventuriers de la mer, avec Sonia Lassaigne et Pierre-François Bonneau. Bleu sous-marin, le morceau de Flavien Berger. Le maritime, c'est aussi la sous-maritimité. Alors, vous faites aussi quelques événements là autour de...
Oui, on aura donc une conférence une rencontre autour des fonds sous-marins, donc avec
Christophe Serino.
Voilà, avec Christophe Serino, avec un caméraman qui va nous expliquer aussi toute la difficulté de cet exercice du film sous-marin, qui est vraiment un exercice très très particulier. Et puis on aura, j'espère, Sonia, un petit direct. Tu peux nous raconter ce direct, parce que c'est toi qui t'as l'initiative.
Oui, un petit direct avec Julien Goulias, qui est passé par Radio Balise, il me semble, avec son projet Bio-Océan, qui n'est pas un brochet, puisque il le vit actuellement, et il est parti pour 3-4 ans pour faire le tour du monde. Et donc là, il est actuellement aux Canaries, où il plonge, filme les fonds sous-marins. Et donc, on va profiter de son escale aux Canaries pour l'appeler en direct et nous dire, Julien, comment cela se passe?
Donc en direct et en sous-marin?
En sous-marin, non. Enfin, on espère qu'il sera au-dessus de l'eau.
Il y a un souci avec le... Autant on peut faire des images, mais alors faire du son sous l'eau, c'est vraiment encore plus difficile.
Ouais. Non, mais on se lance tous les défis, on n'a pas peur.
Bon, Radio Balise, l'année prochaine, on monte un plateau sous le mer.
Ok. C'est lancé.
Donc ça, c'est... Et ça, on retrouve ça quand, alors?
Ça, c'est le dimanche à 14h30. Voilà. Et Christophe Serino pour le musée sous-marin du Pays de l'Orient, puisqu'ils sont... C'est vraiment un très, très beau musée qui continue d'explorer les épaves, qui filme, qui les met en valeur, qui nous font découvrir un patrimoine souvent un peu mis de côté, quand même, et pourtant extrêmement intéressant.
Le musée du sous-marin, qui est toujours aussi à la cité, enfin, la cité de la, voilà, à côté de la cité de la Loire, sur l'Orient la base, avec un peu, il y a une salle d'immersion.
Oui, c'est la tour Davis. Oui, c'est la tour qui date, qui apprenait aux scaphandriers à plonger avec le poids de l'eau, etc., qui a servi notamment pendant la guerre. Et cette tour là est extrêmement bien expliquée pour voir comment on plonge sans s'exploser les poumons.
Et oui, il y a du beau monde quand même, hein, sur cette côte lorientaise. On a exploré, là, on a parlé d'aventuriers, on a moins parlé, je trouve, des scientifiques, de ceux qui construisent un peu les bateaux de demain, les innovateurs scientifiques, puisqu'il y a une université à Lorient qui a aussi des laboratoires de recherche dans ce sens-là. Je crois que dimanche, on parle un petit peu des...
Alors, on va parler des bateaux du futur. Donc, avec François Frey de la Fondation Esprit de Vélox, où le projet est très, très clairement de pouvoir imaginer ce que serait un cargo à voile de demain. On aura le directeur de la SCAPECH qui est là, qui viendra. Alors la SCAPECH, c'est très intéressant parce que la SCAPECH gère toute la flotte, toute la flottille de pêche hauturière de Lorient. Et il vient avec des idées qui sont assez précises et je pense que ça va être assez riche comme débat. C'est-à-dire, lui se pose des questions qui sont des questions très, très pratiques et très pragmatiques autour de l'amélioration à la fois de la rentabilité, de la sécurité des marins sur ces bateaux. Et il a un peu tendance, mais je pense que c'est pour ça que le débat va être intéressant, à considérer que plancher sur le bateau du futur avec des énergies propres et tout, etc., c'est un peu de la prospective pour se faire plaisir, mais qu'il y a des choses beaucoup plus concrètes à faire tout de suite.
C'est vrai que la SCAPECH, c'est ce que vous mettez dans votre programme, il y a 22 navires, 250 marins, 14 600 tonnes. C'est vrai que ce sont des entreprises qui vivent aussi, qui sont ancrées dans le présent.
Tout à fait.
Peut-être pas forcément cette prospective, alors, comme vous dites.
Attention, je ne dis pas qu'ils ne sont pas intéressés par le bateau de demain, mais ils sont beaucoup plus pragmatiques. Ils disent aujourd'hui, déjà, si on arrivait à faire qu'on puisse réduire de 20% notre consommation de gazole, à la fois on résoudrait des problèmes économiques et on serait sur la bonne pente en termes de protection de l'environnement. Commençons par ça avant de commencer à rêver des bateaux pour demain. Maintenant, moi, je pense qu'il faut tout pour pouvoir avancer.
Et justement, à 11h, donc, sur les bateaux du futur, donc à la Cité de la Voile, il y aura aussi Patrick Poupon, qui, lui, fait un peu ce lien entre développement...
Alors, oui, c'est le pôle mer Bretagne. Le pôle mer Bretagne, qui est en fait l'organisme qui à la fois fédère, on va dire, des labos de recherche, des entreprises innovantes, des grosses entreprises, et qui essayent de faire que tout ce maillage fonctionne de manière à pouvoir ensuite, derrière, je dirais, avancer sur des projets qui sont des projets innovants.
D'accord. Je vous propose de refaire une nouvelle pause musicale. On va partir avec les Marins d'Iroise. Voilà, on est à Lorient, donc direction les filles de Lorient.
Ce sont les filles de Lorient jolies, ce sont les filles de Lorient. Mon Dieu, qu'elles sont jolies, oh là. Mon Dieu, qu'elles sont jolies. Sans le soir.
Voilà, toujours sur Radio Balise, dans Balise Midi, vous venez d'écouter Les Marins de l'Iroise avec Les Filles de Lorient. Voilà, titre inévitable quand on parle de la mer ici. Toujours avec donc Pierre-François Bonneau et Sonia Lassaigne des Aventuriers de la Mer, donc manifestation qui se déroule à la Cité de la Voile, Éric Tabarly à Lorient, jusqu'au 22 octobre. On parlait là tout de suite des animations qui ont lieu un petit peu en périphérie. On retrouve notamment des projections cinéma aussi.
Oui, donc en ouverture et clôture de l'événement, ce soir on aura le Voyage du Brandan, qui est un film de Tim Severin et d'Alan Scales. Et Tim Severin, c'est un écrivain, voyageur, navigateur qui a inspiré de nombreuses générations d'aventuriers. Puisque le documentaire retrace cette épopée réelle d'archéologie expérimentale où il s'est dit, les récits des moines navigateurs du 4e siècle qui parlent de terres inconnues, ils avaient peut-être découvert l'Amérique avant les Vikings et avant Christophe Colomb. Et donc il est parti sur un canot en cuir avec quelques compagnons et il a refait cette traversée pour voir si c'était possible. Et c'est ce que raconte le documentaire qui sera projeté sur le bateau de la compagnie Escale Ouest. Voilà, en partenariat avec J'ai vu un documentaire.
Voilà, J'ai vu un documentaire, donc c'est l'association qui diffuse des documentaires donc sur le pays de l'Orient,
voilà.
Dans des endroits parfois incongrus. On retrouvera aussi, pour clôturer, il y aura un deuxième film.
Voilà, un autre documentaire, qui est un magnifique documentaire de Séverine Vermerch, qui s'appelle Dans leurs yeux. Et elle a concocté un documentaire à partir d'images tournées par les marins eux-mêmes. Dans toutes les marines, alors ce qui correspond bien aux aventuriers, que ce soit marine de commerce, marine de pêche, sur la Royale, elle en a fait un montage qui est très émouvant avec le regard des marins sur ces images. Et voilà, c'est très touchant.
Donc ça, ce sera le dimanche.
Le dimanche à 18h30, à la Cité de la Voile, Éric Tabarly, dans l'auditorium. Et c'est gratuit comme tout le reste de l'événement.
Comme tout le reste, à part donc les visites de la Cité de la Voile qu'on peut faire en complément.
Tarif préférentiel à 8,70€ pour aller à l'étage. Et sinon, l'exposition temporaire optimiste depuis 70 ans est en accès libre.
Est en accès libre. Donc direction la Cité de la Voile ce week-end. Dans l'état d'esprit général des aventuriers de la mer, je crois qu'il y a quelque chose d'un peu transversal, c'est cette préoccupation écologique, ou alors préoccupation c'est un peu négatif, mais ce désir de préserver, de sauvegarder cet espace maritime.
Oui, en fait, on n'a pas fait de thème autour de l'écologie et de l'environnement parce que pour nous, c'est quasiment une évidence. Et il nous paraissait plus intéressant de parler, je dirais, d'un certain nombre de sujets dans lesquels on évoquera inévitablement la protection de l'environnement. Mais je pense qu'il faut qu'on aille d'ailleurs même au-delà de ça. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une protection de l'environnement, c'est déjà réfléchir à qu'est-ce que pourrait être le monde maritime de demain, et avec notamment toutes ses potentialités. C'est une chose qu'on oublie de temps en temps, mais la France est la deuxième puissance maritime mondiale en termes de surface d'océan disponible avec les territoires et les départements d'outre-mer. Donc il y a aujourd'hui un potentiel phénoménal qui existe, qui est très peu exploité. Maintenant, qu'il conviendrait d'exploiter de façon intelligente, pas reprendre les bêtises qu'on a pu faire des fois à terre.
C'est vrai que la France, rien qu'en Europe, c'est la façade maritime de l'Europe, en tout cas, enfin, la façade atlantique.
Oui, on va pas dire ça à nos amis britanniques, parce que sinon, ils vont nous en vouloir. Mais oui, c'est un petit peu ça, oui.
Alors oui, il paraît que les Britanniques appellent désormais l'Europe l'Eurasie, hein, mais bon, c'est une autre histoire. On parlait aussi de rêve, d'enchantement de la mer. Il y a cette dualité de la mer autour de cette mer qui est un petit peu ténébreuse, qui est celle qui absorbe aussi les marins, qui est l'inconnu. Et puis de l'autre côté, il y a cette mer un peu nourricière, celle qui procure des vivres, celle qui amène de l'agrément quand on fait du surf. Comment est-ce que c'est vraiment dans l'état d'esprit aussi de cet événement d'arriver à aller explorer en fait cette terra incognita, enfin qui reste incognita encore.
Oui, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que les trois quarts des gens qu'on va avoir invité, pour eux, c'est pas une terre inconnue. Au contraire, c'est presque... C'est un monde qui leur est familier. Et c'est quelque chose qui me frappe toujours. C'est... Vous voyez un marin à terre, et vous partez avec lui en mer, et là, vous comprenez des choses, parce qu'en mer, on n'est pas le même homme.
Qu'est-ce qui se passe?
Je pense que c'est de l'ordre de l'intime. En fait, y a une respiration, une harmonie qui se crée. En fait, pour les gens qui aiment aller en mer, et que des gens ressentent ou ne ressentent pas. Mais quand on voit, par exemple, le métier de marin-pêcheur, qui est quand même un métier qui est extrêmement difficile, qui est dur, avec des conditions de travail qui sont des fois démentielles, il n'empêche que dans les gens qui font marin-pêcheur, ils sont très très rares ceux qui à un moment disent « j'arrête, maintenant je vais aller travailler à terre ».
Ouais. Le métier de marin-pêcheur semble souvent à part, tellement il a l'air millénaire par rapport à ces nouveaux...
Il y a un auteur que j'adore, qui est Jean-Pierre Abraham, qui est malheureusement décédé, et qui avait écrit un très beau livre sur le phare d'Armen. Et dans ce livre, il parle à un moment des vieux pêcheurs de l'île de Sein. Et il dit, mais je ne comprends pas, parce que ces gens-là, ils restaient là des heures, assis au comptoir du bistrot, à regarder par la fenêtre, et ils ne disaient rien. Jusqu'au jour où j'ai compris qu'en fait la mer leur avait vidé la tête. Et je crois que c'est tout à fait ça en fait.
Bon bah ce sera le mot de la fin. Sonia peut-être un
dernier mot. Ouais, moi je voudrais juste ajouter une chose, c'est que on l'a vu dans les journaux, mais il y a eu un drame de mer terrible en début de semaine. Et que justement ça nous rappelait, on travaille sur les aventuriers de la mer, sur cette énergie, cette positivité que la mer apporte, c'est exactement ce que dit Pierre-François, c'est cette dualité, ce dilemme, et donc on aura quand même une pensée vraiment particulière pour le marin qui est décédé en mer sur la Belle Angèle en début de semaine, et qui nous rappelle que la mer est cruelle aussi, et qu'en fait on ne peut rester que humble face à la mer.
Voilà. C'est le mot de le dernier salut de cette émission.
Pour moi, oui.
Oui, je pense que c'est un bel hommage qu'on va essayer de lui rendre aussi.
Je vous propose, alors toujours dans cette relation sensorielle qu'on a aussi à cet élément qui est la mer, je vous propose de nous quitter avec un reportage documentaire de Nicolas Legac, qui lui a voulu essayer de rendre compte du rapport qu'entretiennent les aveugles avec la mer. Voilà. C'était donc Balise Midi, nous étions avec les aventuriers de la mer qu'on retrouve sur l'Orient La Base, donc à la cité de la voile Tabarly, mais pas que, puisqu'on peut aussi visiter des bateaux tout autour, et donc on vous retrouve jusqu'au 22 octobre, donc c'est-à-dire dimanche.
Merci beaucoup à vous,
Radio Balise. Merci d'être passé, et donc à très bientôt, puisque je crois qu'on n'a pas fait le tour de la question maritime.
Non.
Quand on entend les bruits de la mer, il semble qu'on est ailleurs. Ce n'est pas sur Terre qu'on est ailleurs. Mais je suis attiré par les mouettes et les goélands. Oh, j'ai de souvenirs, j'ai la traversée d'Alger par exemple, j'ai fait sur un bateau à voile, on avait les mouettes qui suivaient le bateau, oh c'était en 62, c'est vieux. Je sens une immensité libre devant moi. C'est la liberté. Ben, je vois de l'écume blanche et je vois pas les couleurs. Thank you.
Quand j'étais gosse, j'allais souvent à la plage avec mes parents. Et donc, tous les dimanches, très souvent, mon père nous amenait à la plage. Et je me souviens que j'en avais peur, moi, de la mer, quand j'étais petite. Pour moi, c'était un personnage puissant, très fort, très envahissant, mais quelque chose de vraiment très, très fort. Et j'en avais vraiment peur. Au fur et à mesure que je grandissais, c'est vrai que j'ai pu l'apprécier puisque je la comprenais mieux. Et je passerai des heures moi à l'écouter parce que c'est tellement grand, tellement beau. C'est quelque chose de magnifique. La vie qui va et qui vient et elle représente la vie. On est libre, on est fort quand on est en contact de la mer. Je suis aveugle de naissance. Je suis une voyante complète.
Le blanc, les écumes, le bleu, quand la mer est belle. Sinon, des fois, on peut la voir verte, mais moi, je la vois plus bleue. Je vois la couleur du sable, qui est marron clair, jaune, pas exactement la couleur, jaune clair. Je m'appelle Johnny, j'ai 33 ans et je suis non-voyant de naissance. Quand je sens l'odeur de la mer, ça me rappelle mon enfance, quand j'étais petit, avec mon petit bateau. Enfin, moi, j'aime bien l'odeur de la mer. On dirait que c'est un peu, c'est comme la mer, quoi. La mer est salée, donc l'odeur est salée. Quand on est près de l'eau, quand on arrive au sable mouillé, on sent encore plus. Plus je m'approche, plus je sens l'odeur. Je sais que la mer est basse parce que les algues... ça sent les algues qui sèchent et ça sent de moins en moins l'odeur de la mer. Donc je dis souvent, tiens, la mer est basse. Ou la mer est haute, oui, la mer est haute. La mer monte. J'étais avec l'école en transfert, on appelle ça un transfert, comme on peut appeler ça une classe de mer à l'île aux Moines. C'était il y a... en 95, donc il y a 14 ans, on apprenait à monter les voiles sur les bateaux. J'étais avec un de mes camarades, mais il y avait, je ne sais pas si c'était le vent ou un déséquilibre. 10 heures du matin, je me suis retrouvé à la flotte, la tête la première. Là, j'ai quand même eu un peu peur. Puis tout de suite, je pensais à mon père quand il s'était noyé. Je fais merde, il ne va pas m'arriver la même chose. Puis non, j'avais le bateau juste devant moi. Il s'est noyé en bord de mer en Normandie. On était en vacances en Normandie. Il est mort de suite d'une noyade. La mer l'a tué, si on peut dire ça comme ça. Au début, je disais, je voudrais plus retourner à la mer. J'expliquais aux gens. Puis 2-3 ans après, à l'île aux Moines, on allait se baigner tous les jours. Puis je dis, je voudrais quand même essayer d'aller me baigner. J'ai essayé, j'ai réussi. Là, je dis, c'est une grande victoire pour moi. Et depuis, ça ne m'a jamais quitté. Ça ne m'a jamais quitté du tout.
Voilà, vous étiez dans Balise Midi, l'émission spéciale de ce vendredi 20 octobre. Nous parlions donc des Aventuriers de la Mer, manifestation qui se tient à la Cité de la Voile Éric Tabarly jusqu'à dimanche prochain. Nous avions donc sur notre plateau Pierre-François Bonneau et Sonia Lassaigne, donc de l'association Les Aventuriers de la Mer. Vous venez juste d'écouter Les Aveugles et la Mer, donc L'Écume Blanche, un reportage de Nicolas Legac, une façon de se dire au revoir pour cette émission, donc qui était consacrée à la mer. Voilà, on retourne sur la playlist de Radio Balise pour cet après-midi. À bientôt.